Manon-Hott, du 20 au 22 juin, plusieurs pièces à l'affiche, plusieurs célébrations aussi, 15 ans atelier danse, 10 ans compagnie Virevolt, performance dansée, installation sonore, exposition, débat. Tout d'abord, donc, vous convoquez 180 danseurs pour 15 tableaux autour de la notion de flux. Et donc peut-être s'interroger ensemble, Manon Hott, sur cet atelier de danse et cette compagnie Virevolt. Combien de d'aspirants danseurs ou d'aspirantes danseuses sont passés par ces ateliers depuis leur création et par cette compagnie?
Alors depuis la compagnie, il y a une vingtaine, non une trentaine, je crois qu'on a compté, une trentaine de danseurs qui sont passés. À l'atelier, je crois qu'on en est à 500 depuis le début. Et bon, cette année, il y a 180 danseurs dans l'atelier et 16 dans la compagnie Virevolt. On a une danseuse qui propose un projet dans extension. Donc voilà, ça c'est les chiffres de l'année.
Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport au manque de reconnaissance vis-à-vis des pouvoirs publics de cette compagnie Virevolt et du travail que vous réalisez depuis toutes ces années? Est-ce que vous bénéficiez d'un subventionnement ponctuel? Comment cela se passe-t-il?
Alors pour la compagnie Virevolt, alors on est soutenu autant par la ville que par l'État sur projet chorégraphique, c'est-à-dire on présente un projet de spectacle et puis en général on nous soutient comme on soutient toute autre compagnie indépendante. Alors, on n'est pas assuré de ce soutien comme personne des autres compagnies indépendantes sont assurées. Mais en général, ils nous soutiennent vraiment bien. C'est au niveau du fonctionnement qu'on n'est pas soutenu. On n'a pas un contrat de confiance comme certaines compagnies peuvent bénéficier. Très peu de compagnies en bénéficient. Et c'est peut-être plus au niveau de la formation où là, il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas encore une réflexion à Genève sur comment soutenir, comment s'y prendre pour soutenir les écoles de danse, une formation danse. Voilà, d'où l'intérêt du débat qu'on va faire le samedi à 15h.
Alors justement, par rapport à ça, quelle est la place de la compagnie Virevolt et de votre atelier danse ici à Genève, notamment par rapport à la présence du ballet junior? En termes de formation, c'est vrai que Genève est très pauvre. Beaucoup de danseurs immigrent notamment aux États-Unis ou en France. Pour les pré-professionnels, c'est encore plus délicat. Quel regard est-ce que vous portez? On a vu récemment, disons, de très belles présentations du ballet junior, notamment une chorégraphie de Joseph Treffé, et qui montrait, disons, 25 danseurs. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un réservoir important. Mais quelle est un petit peu la place à la fois dans la formation et dans cet éveil à la danse que peut avoir la compagnie Virevolt et cet atelier de danse?
Disons que nous, contrairement au ballet junior, c'est-à-dire qu'on on s'adresse à des plus jeunes. Donc le ballet junior s'adresse à des gens qui finissent leur formation. Donc, c'est des gens qui ont plutôt 20, 25 ans, cette tranche d'âge, qui viennent d'un peu partout dans l'Europe. C'est leur particularité. Et ils permettent à ces jeunes-là, au travers de leur compagnie, de tester la scène et de se frotter à différents chorégraphes. Parce que la compagnie Virevolt, sa particularité, c'est que ce sont très jeunes enfants qui ont entre... Déjà, dès 10 ans, ils peuvent entrer dans la compagnie. C'est un investissement énorme en temps pour eux. Et ça leur permet, moi, ce que je leur propose, en fait, c'est d'entrer dans un processus de création de A à Z, en même temps qu'ils font leur formation, entre guillemets, technique. Donc, c'est des jeunes qui, eux, se frottent aussi à des chorégraphes, mais qui se frottent à une réflexion sur la création, sur comment se positionner en tant que personne et en tant que danseur et en tant que créateur, même s'ils sont très jeunes, naturellement. À leur niveau à 10 ans et à leur niveau à 15. Et on voit avec Sarah, justement, rendue à 21 ans, elle a déjà son propre vocabulaire, ses propres pensées artistiques.
Alors, justement, cette formation est voulue ludique, inventive et ouverte. Elle est ouverte notamment, elle s'est ouverte à un créateur, c'était Gilles Jobin, pour le cadre de Moebius Kids. Ici, dans cette occurrence, au Théâtre du Grütli, il y aura également Pascal Grava et Prisca Arche qui vont compléter, d'une certaine manière, prolonger une chorégraphie que vous aviez déjà initiée. C'est un petit peu pas tout à fait le même procédé qu'avec Gilles Jobin, on va y revenir. Qu'est-ce que ça apporte justement d'avoir des personnes qui ne sont pas morphologiquement encore formées, encore achevées, je dirais, enfin ces préadolescents, et de pouvoir travailler avec eux? Est-ce que c'est un matériau, un outil, à la fois au plan psychologique et au plan physique, qui est beaucoup plus ductile que des danseurs déjà danse-éduqués, ou qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça?
Moi, je pense que maintenant, avec l'expérience au début, c'est vrai qu'on a cette idée, voilà, c'est des jeunes, donc c'est des élèves, donc c'est scolaire, donc c'est moins bien. Et puis finalement, comme ils sont dans un espèce de contexte de création depuis qu'ils sont tout petits, ils sont très à l'aise, très ouverts, très rapides dans la pensée et dans le solutionnement. Alors, les pizzas, c'est l'autre côté. Ah ok, d'accord, excusez-moi. D'accord. Et je trouve que pour les chorégraphes, ce qui est intéressant pour eux, ils l'ont dit, mais ce serait peut-être encore mieux que moi pour en parler, c'est qu'en fait, ils se retrouvent à travailler comme avec des professionnels, mais ce ne sont pas des professionnels, et à eux-mêmes en tant qu'artistes et créateurs, à se repositionner sur leur propre démarche, leur propre vocabulaire, parce que tout à coup, ils ont des jeunes qui réagissent autrement devant eux, mais qui réagissent presque comme des professionnels. On n'est pas en train d'en faire des singes savants, alors on est très, très loin de ça. Mais ils ont une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité que souvent le danseur professionnel a perdu. C'est normal, hein? Même nous, en tant qu'adultes, on aimerait bien des fois retrouver cette fraîcheur que la vie nous a un peu volée chaque année. Donc, cette fraîcheur-là, cet investissement-là, ce regard neuf sur les choses, autant sur la création, sur la vie, sur la danse, sur la culture dans laquelle ils sont, c'est ça qui souvent... parfois, ça peut même déstabiliser certains créateurs. Hein.
Alors, c'est aussi des créations qui sont très ouvertes sur leur quotidien, leur ressenti, leur rapport aux choses, aux gens, à l'espace, la manière de rythmer une journée. Ça a été le cas notamment d'une création que vous avez présentée en diptyque, si j'ose dire, au Théâtre Amstramgram, avec en seconde partie Möbius Kids, et puis en première partie, cette création où il y avait une manière de scander en fait une journée, et ça part aussi comme Pina Bausch par exemple, je veux dire d'interview, hein, d'entretien avec ces jeunes danseurs. Et qu'est-ce que ça leur apporte aussi, ou peut leur apporter dans leur assise, dans leur quotidien, dans leur rapport aux autres, justement dans une manière de mieux découvrir aussi leur monde? Parce que contrairement à Botello, par exemple sur sa dernière chorégraphie qui est pour enfants, vous travaillez vous directement avec eux.
Oui, ça c'est. Je pars de ce qu'ils sont en fait, et après je les amène à réfléchir à ce qu'ils sont et à réfléchir ce qui peut-être ils voudraient être aussi. Donc il y a une part de réflexion, c'est vrai, d'investissement personnel. C'est pas un prenage de tête, mais voilà, quand on fait un mouvement ou quand on fait un enchaînement ou quand on fait un spectacle, c'est pas juste de dire bon là on fait joli, je sais exécuter ça, je sais faire tant de pirouettes ou machin. C'est-à-dire que tout part d'un intérêt personnel, d'un intérêt aussi, d'un respect de soi, respect de son corps, respect de l'autre, respect dans la vie dans laquelle je suis, respect pour cette pièce, respect pour les chorégraphes avec lesquels je travaille. Et puis si ça va pas, ben t'as le droit de dire ça va pas, moi je suis pas d'accord, pourquoi t'es pas d'accord, d'argumenter entre eux. Ils apprennent énormément, il y a un côté conciliation, mais aussi un côté d'affirmer ses idées. Et certainement que leurs idées évoluent et progressent avec les années. Au début, on a des préoccupations de jeunes, on a plutôt des prises de pouvoir de jeunes, comme on peut faire, voilà, tout le monde se lit pareil, tout le monde va être pareil. Et puis après, il y a ceux qui veulent s'éloigner des adultes. Puis après ça, on commence plus à s'affirmer en tant que soi et à collaborer ou à, comment je dirais, à s'imposer en tant que personne, quoi. Donc entièrement.
Alors, vos chorégraphies, notamment certaines, ont abordé la question de la mémoire, du rapport à l'identité, avec notamment un choix qui était proposé pour ramener un certain nombre d'éléments, que ça soit photographie ou texte, qui était propre à chacune des interprètes. Ça a été le cas effectivement pour cette chorégraphie dont nous parlions, où c'était là comment se rythme une journée. Ici, pour ces 15 tableaux, il y a aussi une troisième dimension parmi d'autres qui est omniprésente dans votre travail, c'est le rapport entre le son et le mouvement. Et c'est vrai qu'il traverse selon plusieurs modalités, dont un des tableaux par exemple, où il y a un élément d'un jeu vidéo qui s'appelle la console Wii, enfin cet élément qui permet justement de travailler sur le son et de faire un rapport direct entre le mouvement et le son qui est généré, la manière de le tenir. Que dire justement sur ce rapport extrêmement pluriel que vous avez toujours exploré, notamment avec Claude Demière, mais ici aussi avec un autre compositeur.
Avec Jacques Demière, oui. Et là, c'est avec Marie Schwab. Bon, Jacques a fait 4 créations avec la compagnie Virevolt. Donc, ça fait plus de 8 ans qu'il est qu'il collabore avec nous. Et là, il est un des collaborateurs d'un des tableaux. Et c'était la première fois qu'il travaille avec des 6 jeunes. C'est un tableau où ce sont des enfants de 8 ans. Et il les a amenés, par exemple, porter attention sur comment le son voyage. Donc déjà, il leur a fait une conférence sur le son et les enfants ont énormément retenu cette leçon que le son voyage dans l'espace, que s'il n'y avait pas d'air, s'il n'y avait pas d'espace, on ne pourrait pas entendre et qu'en fait, on n'entend que ce qui nous revient à nous. Et c'était intéressant après de pouvoir dire mais comment nous, on peut, en dansant, transporter du son, le faire voyager aussi, le faire passer sous des ponts qui sont nos jambes, etc. Donc voilà, on a à leur niveau, donc c'est des petits, ils transportent des tout petits instruments sonores qui déplacent dans l'espace et toute leur danse dépend de où va ce son, quoi. Donc c'est quelque chose qui est complètement improvisé et en même temps très structuré. Ils ne fonctionnent qu'à l'écoute. Ce qu'ils entendent leur permet de passer à d'autres mouvements et c'est un aller-retour, c'est un corps écoutant, quoi. C'est très beau. Et donc avec Marie, on a aussi travaillé, c'était très important pour Marie d'avoir ce son du flux qui serait le lien entre du début à la fin et d'apporter un peu des notions de soit d'interview, de voix qui vient compléter chaque tableau, le travail qu'ils ont fait avec les différents intervenants artistiques. Mais la musique pour nous, c'est pas forcément une musique, c'est souvent une musique que j'aime bien, qui à quelque part peut presque sortir des corps.
Alors justement sur cette musique qui peut sortir des corps, une chorégraphe franco-vietnamienne qui s'appelle Emmanuel Nguyen Tan Loan, qui avait créé un solo Mua, qui a été présenté il y a de cela plus de 10 ans ici au théâtre du Grutli, travaillait notamment avec un gros lot dans une quasi-pénombre. Et effectivement, il y avait un espace sonore, un champ de profondeur sonore qui était créé. Ici, c'est pas des gros lots, je crois, pour ce tableau, le son qui voyage, mais c'est sur des boules chinoises, il me semble. Il y a tout aussi une notion d'énergie dans la transmission à la fois du mouvement et du son. Dans chacun des protocoles ou des modus operandi qu'on découvre ici où vous présentez ces différents tableaux, il y a quand même cette tentative de donner à un groupe ou à plusieurs groupes dans le cadre de ce tableau un langage élaboré. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour la transmission de ce langage? Je crois qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont demandées, il y a un certain nombre d'explorations aussi.
Oui, c'est-à-dire que pour transformer ce travail, parce que là, on a travaillé avec des intervenants différents, alors que ce soit un plasticien ou un musicien ou la voix ou je sais pas quoi, l'intérêt était de faire un lien avec la danse. Alors, comment cet artiste, lui, travaille le flux dans son art, comment il l'a présenté au groupe d'enfants et comment cet enfant, lui, après, le reçoit et en même temps, comment il en fait de la danse. Donc, on cherche un certain nombre de mouvements, si je peux dire comme ça. Et puis après, voilà, comment on peut sélectionner ce mouvement ou en tout cas l'élaborer pour qu'il corresponde vraiment à ce qu'on a envie. Et après, on apprend à l'exécuter, quoi, techniquement, parce que finalement, ça, c'est important pour le danseur. Je veux dire, il doit sortir son mouvement comme un musicien doit sortir un beau son de son instrument. Donc pour ça, il faut le travailler et retenir que l'essentiel, en fait, et se débarrasser de tout ce qui est superficiel et inutile. Ça demande une grande épuration, mais aussi un grand contrôle musculaire, tout ça, mais aussi de sentir ce mouvement qui vient de soi. Donc, tout ce côté sensoriel, on travaille beaucoup les sens, on travaille beaucoup les systèmes corporels. Donc, finalement, le mouvement, il vient de quelque part, c'est-à-dire de soi, vraiment de son corps à soi, mais de son être à soi. Et ça reste quand même technique, je veux dire, ça fait toujours un petit peu peur. Des fois, on dit, voilà, c'est de l'expression corporelle que vous faites. Mais quand j'en parle, mais une fois, quand on les voit, voilà, ce sont des danseurs, quoi.
Restons dans la technique, parce que j'entends, il est très important aussi de dire de quelle manière elle peut se traduire, et nous citons ici de mémoire, mais j'entends il y a une grande chantre, zélatrice du Bodyman Centering qui est ici présente dans plusieurs de ses tableaux, qui est Sigun Schenk, que le public genevois avait notamment pu découvrir dans un duo avec Sylvia Rogers autour de l'ombre et de l'expérience carcérale de Sylvia Rogers lorsqu'elle avait été emprisonnée en Argentine. Qu'est-ce qu'il en est justement de ce travail pour les enfants? Parce que je sais que le Body Mind Centering, en tout cas certains dérivés, si j'ose dire, sont utilisés dans le cadre d'enfants autistes, dans le cadre d'enfants handicapés physiques et souffrant, disons, d'un certain nombre de difficultés à l'adaptation au monde et à son propre corps. Quelques mots quand même sur le travail de Sigun Schenk.
Ce que j'ai demandé à Sigun il y a 5-6 ans, sinon plus, quoi, maintenant, c'était de faire des expériences avec moi, avec un groupe de jeunes qui avaient 11 ans. Alors, je dis, on va se partager un cours et puis tu amènes des systèmes corporels, puis on voit, moi je fais le lien avec la technique et on voit si ça les aide ou pas. Voilà, on essaye. Alors c'est complètement expérimental, on fait des essais et on s'est rendu compte que ces jeunes-là, ils deviennent très intelligents à quelque part corporellement. C'est-à-dire qu'ils... Une fois qu'ils ont senti, c'est sûr qu'ils maîtrisent pas, c'est pas intégré après une année, c'est un grand travail corporel, ça peut prendre des années, mais ils sont très conscients. Ça leur donne une certaine conscience du corps, conscience du fonctionnement du corps, conscience aussi du respect du corps pour pas l'abîmer et tout ça. Et ensuite, aller chercher des qualités différentes de mouvement par ces systèmes. Et après, on a essayé d'amener cet enseignement à des enfants de 7 ans. Et pour là, comme disait Gun, ils sont moins dans les sensations. Si, ils sont dans les sensations, c'est pas vrai. Ils savent très bien sentir, toucher, des choses comme ça. Mais ils sont peut-être moins dans les compréhensions des systèmes. Mais ils sont plus dans... Ils sont très intéressés par le squelette, par exemple. Ils savent tous les noms des os et des choses comme ça. C'est impressionnant de voir comment, tout à coup, ils ont plus peur de ce corps. Quoi que c'est pas... À 7 ans, souvent, quand on leur demande avec quoi ils dansent, ils vont dire avec mon juste au corps. Avec mes, pour les petits classiques, ils vont dire avec mes chaussons. Ils vont jamais dire d'office comme ça avec mon corps. Ça va prendre du temps avant qu'ils vont sortir le mot. Là, ils sont complètement dedans, quoi.
Justement, il y a aussi un tableau qui traite du centre de gravité, la manière de le découvrir, la manière de l'explorer, de l'utiliser aussi. Quelques mots peut-être sur ce tableau.
Alors ça, je crois que c'est le tableau de Nathalie. Nathalie travaille beaucoup, beaucoup
Nathalie Takela.
Oui, voilà, Nathalie Takela aime beaucoup travailler le poids au sol. Elle a travaillé ça avec les garçons. Donc elle a un groupe de garçons qui sont très dynamiques. Et c'est vrai que c'est un des fondamentaux de la danse contemporaine, quoi. De tout ce qui est rapport au sol, rapport aussi ce centre du corps qui est attiré par la gravité de la terre. Pour pouvoir après s'y envoler si on veut, mais ce travail du poids donne une énergie, une dynamique qui est particulière à la danse contemporaine. Quoi.
Alors, qui dit flux dit indisciplinarité, transdisciplinarité, geste transversal, et cela vous l'avez initié notamment avec les musées d'art et d'histoire, une collaboration qu'on espère naturellement avec d'autres lieux muséographiques et d'expositions ici, mais c'est le rapport effectivement entre art plastique, danse et son aussi, et notamment il y avait une salle, quand vous aviez fait cette présentation il y a quelques années, qui était consacrée à Ferdinand Hodler, enfin il y a certaines acquisitions du Musée des Histoires de Ferdinand Hodler. Ici, vous proposez à ce tableau 14 une exploration en flux tendu entre effectivement une peinture de Hodler, sa mise en scène à l'extérieur, puisqu'on retrouve ses signes, mais aussi le fait que ces jeunes personnes doivent prendre effectivement non seulement ses expressions, mais en tout cas cette anthropogénèse du signe. Quoi. Alors qu'en est-il justement ?
Alors il y a beaucoup de. Ce tableau dont vous parlez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Et puis il me plaît beaucoup à cause de ça. On est parti sur cette histoire de flux, tout ça, etc. Et on a travaillé avec Jean-Marc Binet, le violoncelliste, qui lui, ce qui l'intéressait, c'était le flux entre lui, instrumentiste sur scène, et le danseur sur scène, le flux qui peut se développer entre les deux. Et Jean-Marc Binet faisait déjà partie de la fête que nous avions fait pour les 10 ans de l'atelier à Amsterdam, et à cette époque, on avait monté le Carnaval des animaux et Jean-Marc jouait le cygne. Donc, on a dit, on fait un clin d'œil aux 10 ans et on reprend le cygne. Et là, c'était très intéressant parce que Jean-Marc a proposé de prendre la partition, mais d'un peu de la déconstruire et de travailler plus une partition contemporaine au violoncelle. Alors, les enfants, ils ont réagi très fortement en disant, mais ça va pas, un cygne, c'est gracieux, c'est beau, c'est blanc, tu peux pas taper comme ça sur ton violoncelle, tu peux pas faire des grincements avec ton violoncelle, ça va pas ensemble. Et là, on a dit, voilà, là, on a du boulot à faire, on y va, on relève nos manches, et on a fait un gros travail, justement, sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, et le cygne, finalement, il a plein de maladresses, quand il sort de l'eau, ben, il marche en dedans, il est lourd, quand il vole, il est très lourd, quand il crie, son cri est horrible, donc il est pas toujours beau. Et Jean-Marc a dit, mais voilà, on avait regardé des reproductions de peintures d'Odler du lac où il peint le lac et puis qu'il y a ces signes au premier plan qui sont posés à peu près comme des notes de musique très rythmées comme ça. Donc, on a fait tout ce travail de rythmique en lisant comme si c'était une partition. Puis, Jean-Marc a eu la très bonne idée de dire aujourd'hui, le lac, il est toujours là. Il y a toujours des signes, mais les signes aujourd'hui, ils n'entendent pas ce que ces signes-là entendaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils entendent aujourd'hui, les signes? Et ils ont fait des collages, je pense que c'est dans les cahiers. On leur a fait des photocopies de cette peinture et ils ont collé dessus toutes sortes d'objets, des découpages sonores. Voilà, donc on se retrouve avec des signes, avec des iPods au-dessus d'eux, des voitures, des trains. Et tout à coup, ils ont compris que ça n'enlevait pas le côté... magnifique du cygne qui voyait, qui rêvait, la petite danseuse, c'est le rêve, quoi, le cygne, je veux dire. Et ça donnait un tableau magnifique où ils ont maintenant même presque plus de plaisir à faire les mouvements disgracieux du cygne et ils ont complètement accepté tout à coup que la partition pouvait avoir des espaces plus violents, plus rudes, plus cassés et ils sont très, très heureux de leur tableau. Et Jean-Marc et moi, on est comme ravis de l'évolution qu'ils ont fait au travers de ce travail. Quoi. Alors,
c'est vrai que quand on les découvre, on est beaucoup plus proche, non pas du lac des cygnes et de certains ballets autour, mais de ce qu'a fait Raymond Auger, Swan's Lake's Four Acts, qui a été présenté au Théâtre du Loup, et qui était effectivement une réinterprétation du lac des cygnes, avec un corps justement boiteux, un corps qui avait un vol lourd, comme vous le proposez ici. Donc vous êtes parti quand même de quelque chose d'un peu, je dirais, déceptif. C'est pas de la danse, danse, belle, beau geste, etc., mais c'est au contraire, les pieds en dedans. Enfin, on a une manière quand même d'entrer dans le sujet qui est assez maladroite, quoi.
Oui, mais c'est toute une expérience qu'ils ont vécue, en fait. On a regardé, on a visionné des films du cygne, des films d'animaux. On a aussi beaucoup regardé de photos. On a lu des poèmes sur le cygne.
La musique aussi, Saint-Saëns, voilà. Des pizzicata qui ont été créés.
Exactement. On est parti de la partition. Ils sont intervenus sur la partition aussi. On a fait des photocopies de partition. Et ce qui veut dire que du coup, c'était le travail qui était intéressant. Et ce cygne, maintenant, ils l'ont complètement dedans d'elles. Ce sont que des petites filles. Elles l'ont complètement, entièrement, c'est-à-dire gracieux et maladroit. Ils ont les deux côtés. Et puis voilà, c'est l'être humain. Hein? On est ça, quoi. On est un mélange des deux, quoi. C'est important pour elles de le comprendre et puis de l'assimiler. Puis maintenant, elles sont très attachées à ce signe qu'elles dansent maintenant.
Alors, pour cette partie, je vous proposerai de terminer par le dernier tableau, le tableau 15, qui est intitulé aussi, en tout cas on y parle d'improvisation. C'est vrai qu'on retrouve quelle est en temps une des interrogations d'expérimentation, je crois, c'est quelle est sa place dans la danse, le soi, dans l'espace. Qu'est-ce que vous avez voulu développer justement dans ce tableau, Manon Hoth?
Alors, deux choses. Danser en parlant, c'est-à-dire on a travaillé avec Claire Filmon qui elle est une émule de Simone Forti et donc qui est vraiment ce travail de mouvement et de voix. C'est-à-dire que dans la vie, on bouge tout le temps et on parle et on se rend pas compte. Et dès qu'on on monte sur une scène, soit on parle, soit on bouge, on n'arrive pas à faire les deux, quoi. Donc là, c'était intéressant de travailler ça avec ces jeunes-là, c'est-à-dire d'arriver à faire un travail de mouvement et de voix en même temps. Et c'était long, hein. On a travaillé plus de 6 mois pour arriver à ça parce qu'ils sont pas très âgés, ils ont 14 ans à peu près, et ils font un travail très intérieur, des mouvements très lents tout au sol qui demandent énormément de force et de dynamisme, et avec un flux de parole. Donc ils n'arrêtent pas de parler, quoi, pendant qu'ils vont hyper lentement avec le corps.
Et ces paroles, c'est de quel ordre? Parce que c'est vrai qu'on parlait de la chorégraphie au théâtre Amskramam dont vous allez nous rappeler le nom. Là, il y avait véritablement des extraits de journal intime, hein, de chronique, un petit peu à la miel mais de manière réduite, avec des impressions très précises. Mais parfois aussi, le langage est utilisé comme un matériau purement rythmique, hein, sans dramaturgie aucune. Qu'est-ce qu'il en est ici?
Ici, c'est, on parle, elles ont la possibilité de parler de ce qu'elles veulent. Ça peut être, on raconte sa journée, ça peut être, voilà, on a aussi fait un travail d'écriture sur dans 15 ans, comment elles s'imaginent. C'est-à-dire que je leur ai dit, par exemple, vous fermez les yeux, vous écoutez le silence, et quand vous ouvrez les yeux, 15 ans ont passé, vous avez 5 minutes pour écrire ce que vous entendez, vous voyez qui vous êtes devenu. Et donc, ils sortaient des textes qui vont être exposés, ils sont pas encore là, mais des textes extraordinaires. Et donc, ils ont la possibilité aussi de parler de ce monde-là, et d'ailleurs, à la toute fin, ça c'est les sujets dont ils peuvent parler, et à la toute fin, ils sortent dans les coulisses, et ils prennent des petits-enfants qui ont les plus jeunes de l'atelier, ils leur racontent comment elles se voient ou comment elles voient la vie dans 15 ans. Et voilà le spectacle. Je ne devrais pas le dire, mais il se termine sur cette joie, quoi, ou ce retour à la jeunesse, à la vie, à l'innocence, à la pureté.
Et le début du spectacle, juste en quelques mots, parce que ce premier tableau est assez intéressant, je crois que c'est les plus petits, en fait, qui sont convoqués ici. Là, on y parle vraiment du flux héraclitéen, c'est-à-dire c'est le fleuve, c'est l'eau qui s'écoule le long des galets, c'est aussi l'eau qu'on enlève, cet excédent d'eau qu'on enlève après sa douche, par exemple. Qu'est-ce qu'il en était, justement, puisqu'il y a aussi un travail avec un musicien, Nicolas, ici, en quelques mots, peut-être, pour ce premier tableau.
Nicolas Field a été très courageux, parce que c'est un jeune compositeur, un jeune musicien, je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas s'il a 30 ans, quoi. Il s'est retrouvé avec 30 enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et plus, quoi, deux groupes de 30, donc ça faisait 60 en tout. Donc, il leur a apporté, mais c'était magnifique, quoi, il leur a apporté des petits objets du quotidien, comme des bouteilles PET, qu'ils pouvaient faire du bruit avec, et tout ça, des choses très simples, hein, qu'on fait souvent dans des cours d'écoute musicale ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est parti dans le mouvement. Par exemple, ils ont fait des frottis avec des papiers de sable, et tout à coup, en frottant, ça partait dans des mouvements de spirale, de torsion de dos qu'on a rarement avec des enfants de cet âge-là. Et là, ils se rendent pas compte qu'ils font parce qu'ils sont dans une action qui produit un son. Ils sont dans le mouvement, dans le dynamisme. Et bon, il a fait plein d'expériences comme ça qui étaient très ludiques et qui étaient aussi beaucoup basées sur l'écoute et sur le mouvement qu'on fait pour produire un son. Là, on est dans l'action, contrairement à l'autre pièce où on est plutôt dans l'écoute qui amène une action.
Alors, 15 tableaux, ça implique une scénographie épurée, mais aussi très intéressante que vous avez créée comme espace. Les gradins sont revenus, certains s'en réjouiront, d'autres pas. En tout cas, c'est du bifrontal, donc il y a sans doute une vision, je le dis parce qu'il y a un des tableaux qui traite du miroir, mais une vision en miroir, justement, dans lequel on peut très bien apprécier. Comment c'est imposé pour vous? Déjà, c'est peut-être plus facile pour les entrées et les sorties, je crois qu'il y a deux portes de chaque côté et tout, c'est toujours un problème. Mais disons, déjà pour cette vision, pourquoi ce bifrontal, justement, dans la black box, en tout cas, où vous avez présenté ces 15 tableaux dansés, Manon Haute?
Ben, ce qu'on voulait, c'était recréer un flux. C'est un peu les gradins représentent un peu la berge, et ce qui passe devant nous, c'est un peu l'écoulement d'une rivière, le fleuve qui va se jeter dans la mer, et puis nous, on est sur la berge, et on a le choix d'y rester ou de plonger. Voilà.
Et ça sera 15 tableaux dans 15 scénographies lumineuses différentes.
Oui, mais il y a, Claire Firman, qui est l'éclairagiste, elle a proposé différentes possibilités et qu'elle remet dans différents tableaux. Donc, il y a des notions de bulles, des notions de bleu, de miroitement. Et puis, voilà, qu'on joue un peu avec ça. Parce que c'est 2 minutes chaque tableau, hein, c'est très court. Et j'avais peur à ce côté zapping, où on n'a pas le temps de développer quelque chose. Et puis, à chaque fois, c'est un truc nouveau. Et puis, non, en fait, c'est un seul, hein. pour moi, c'est un seul mouvement, hein, avec 15 propositions différentes, mais c'est un seul mouvement. Et donc, il y a des liaisons, ça s'arrête jamais. Hein, je veux dire,
il y a aussi des correspondances, des contrepoints, des échos d'un tableau à l'autre,
oui,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On peut reprendre des couleurs, surtout avec les éclairages et la musique qu'on a les retours. Et il y a un élément très important qu'on n'a pas parlé, ce sont les costumes. Et en fait, Olivia Haddad, qui est une jeune designer, comme on les appelle, a proposé de travailler sur l'écosystème, c'est-à-dire qu'a demandé à tous les jeunes d'apporter des vêtements d'été de couleur claire dont ils n'utilisaient plus. Et nous, on a mis à contribution tous nos costumes depuis 15 ans de couleur claire, et on a tout mis dans un bac, et après ils ont, avec Nicole Kamenzin qui l'a assisté, ils ont blanchi tous les costumes, ils les ont retaillés, recousus, chaque enfant a un costume personnel, individuel, il n'y a pas deux costumes pareils. Et ça, c'est pour moi, ça rentre dans le flux complètement, dans le sens aussi, une réflexion, j'apporte mon costume, c'est pas quelque chose, c'est pas une belle petite robe ou un machin, c'est tout des trucs qui sont des fois il y a 3-4 vêtements pour faire un seul costume, et ça c'est quelque chose qui a marché très très fort, hein. C'était une démarche que ça fait des mois que les enfants portent des habits, qu'ils disent voilà qu'est-ce que je vais avoir le jour où ils ont découvert ce qu'ils allaient avoir, et puis ils pouvaient un peu négocier aussi, je veux plus de ça, plus de ci, jusqu'à un certain point parce qu'il y avait 180 costumes à faire. C'est un titanesque, hein, comme travail, mais ce côté blanc aussi, c'est très très beau. Hein.
Alors c'est une blancheur du début jusqu'à la fin. J'aime bien que vous souligniez la chose, car je crois que dans toutes vos créations, qu'on pense à Möbius Kids par exemple, et cette collaboration je crois avec Carol Vintage, vous accordez une place extrêmement importante à l'habit, et c'est vrai que dans des périodes préadolescentes ou adolescentes, ça l'est, mais au plan de la signature corporelle, et même Michel Serres, un philosophe français, disait que justement le plus important c'était cette inscription corporelle, c'est le premier signe visuel se fait au travers de cela. Vous avez toujours accordé à cet artisanat en plus, puisque pour des raisons économiques, on se débarrasse aussi dans de jeunes compagnies malheureusement de cet aspect costume, vous le mettez quand même très en avant.
Oui, moi je pense que ça fait partie du travail de création, et il y a une réflexion à avoir sur le costume, il y a une réflexion à avoir, on est sur scène. Je suis pas contre du tout aussi parfois de dire voilà, on va sur scène avec un habit de ville, on met sur scène la vie quotidienne avec tout ça, donc avec l'habit, avec les attitudes, tout. Pour moi, j'ai pas de problème avec ça non plus. Mais je trouve aussi que c'est important de savoir qu'un habit de scène, c'est pas juste quelque chose qui enrobe, ou c'est pas juste quelque chose de décoratif, c'est aussi une réflexion, c'est-à-dire que on a réfléchi pour en ce qui concerne les 15 tableaux sur le flux, on y a réfléchi pour la musique, on y a réfléchi pour les éclairages, on y a réfléchi pour les danses, on y a réfléchi pour tous les intervenants qui ont été là, ou les textes qu'on a écrits, et on y a réfléchi pour le costume aussi. Donc tout le monde est dans le même sens. À quelque part, même s'il y en a qui sont en opposition parce qu'ils n'ont pas la même vision, et c'est ça qui est bien, ça crée aussi un peu de dynamisme et un peu un peu de vie, quoi, hein, parce que la vie, c'est pas que dans une seule direction.
Alors, vous investissiez deux dernières choses, donc toute la maison du Grütli avec la White Box, et c'est vrai que ici il y a donc une collaboration, une transmission qui s'appelle Le Dire d'une Danse avec Pascal Grava et Prisca Arche. Vous aviez déjà fait une expérience un peu similaire, mais selon des modalités différentes, avec le Möbius Strip de Gilles Jobin. Ici, vous aviez, si je vous ai bien compris, donc commencé une écriture qui a été à la fois prolongée, enrichie, ramifiée. Quel a été votre désir de départ, justement, pour ce Dire d'une Danse?
Cette fois, je voulais travailler sur la narration en danse. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de faire une histoire? Est-ce qu'on est compréhensible que quand on fait une histoire? Est-ce que l'abstraction, c'est obligatoirement dire qu'on se raconte rien? Donc voilà, on s'est posé ces questions-là parce que les jeunes les adultes se la posent tout le temps en danse contemporaine, mais les jeunes aussi se la posent, voilà, qu'est-ce qu'on va danser, etc. Donc on a dit, bon, on va réfléchir sur ça. Pour moi, ce qui était le plus important par expérience, c'est-à-dire de partir de ce qu'ils sont, de ce qui est plus proche d'eux, comme ça c'est plus facile quand c'est proche de toi, après de t'ouvrir vers l'extérieur, surtout que lorsque t'es enfant comme ça. Donc je leur ai demandé de se souvenir d'une émotion qu'ils ont eue lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'on leur a raconté une histoire. Alors peut-être qu'ils ont eu des émotions de tristesse parce que l'animal a perdu sa mère, ou de colère parce que je sais pas, le personnage principal s'est fait gronder injustement, ou de bonheur, ou de etc. Et c'était étonnant parce qu'au début ils ont commencé par dire que non, ils se souvenaient de rien, et petit à petit les souvenirs sont remontés, petit à petit les émotions sont arrivées et ils se sont souvenus de d'avoir été triste ou heureux ou je sais pas quoi. Et on est parti de ça. Voilà, c'était un travail où là, on a travaillé sur la notion du solo. Donc j'ai dit, voilà, ça c'est votre souvenir, votre émotion, et on va la mettre en mouvement, ça sera votre solo. 16 danseurs, 16 solos. Donc j'ai fait ce travail-là avec eux, beaucoup les accompagner aussi. Comment on met une émotion en mouvement, ça c'est pas évident non plus, hein, sans avoir à aller trop dans le côté psychologique, juste dans le côté plus de compréhension de soi ou d'une partie de sa vie, ou est-ce que cette émotion que j'ai eue, est-ce qu'aujourd'hui je m'en souviens encore, est-ce que j'ai la même quand je me retrouve dans la même situation, des choses comme ça qu'on peut échanger parce qu'on parle beaucoup, on fait pas juste danser, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Et puis, bon, ben voilà, ça a donné des 16 solos que, après, j'ai, comment dire, ce qu'on fait beaucoup en danse aussi. Donc, j'ai cassé ces solos, reconstruit, déconstruit, on a fait des duos, des trios, des quatuors. Chacun peut pris des éléments des autres, on a bon tout mélangé, malaxé ça, on s'en souvenait même plus ce qu'on avait fait au départ, revenir au départ, écrire ses solos, les lire à haute voix, à basse voix, les lire son solo pendant que l'autre danse le sien, etc. Toutes sortes de choses de genre pour un petit peu pas s'installer dans une écriture, mais de voir qu'une écriture, ça a mille possibilités, quoi. Faut pas entrer dans un moule d'écriture, mais de toujours déstabiliser tout le temps. Donc voilà, j'ai travaillé comme ça pendant plus de 6 mois. Et puis, comme je savais que cet événement me prendrait beaucoup d'énergie, et puis que j'avais envie, depuis un moment, de travailler avec Pascal et Prisca, j'ai dit, écoutez, je pense que vous êtes les personnes idéales pour travailler sur la narration ou sur le texte, parce que c'est une de leurs préoccupations. Mais j'ai dit, là, voilà, j'ai un contrat à vous faire qui est pas usuel, c'est-à-dire que vous prenez ces 16 danseurs avec leur matériel chorégraphique et vous finalisez ce travail comme vous souhaitez le faire, avec votre touche qui va là.
Alors, le long, justement, qui va là, c'est le nom de leur compagnie, mais est-ce qu'ils l'ont finalisé? Est-ce qu'ils l'ont subverti? Est-ce qu'ils l'ont retourné? Est-ce qu'ils l'ont trahi? Qu'est-ce que vous avez pu en voir d'après et en juger d'après ce que vous avez découvert?
Ben, écoute, je les ai accompagnés, hein, mais je suis pas intervenue, hein. J'ai suivi le travail. J'ai vraiment donné carte blanche pour cette fin. Et je suis très émue. Je pense que les chorégraphes devraient faire ça plus souvent, parce que il y a ce côté. Plein de gens me disent, ouais, mais bon, c'est pas toi qui signe. Comment ça te fait? Ça t'appartient pas? Mais je dis, moi, je pense que ça m'appartient encore plus que que quand tu vois que tout à coup tout le matériel que tu as fait avec ces jeunes-là, quelqu'un est capable de prendre ce matériel et en faire quelque chose, c'est qu'à quelque part, ce qu'il y avait au départ était juste. Et eux, je vais pas tout dévoiler, mais ils ont vraiment fait un travail mais fantastique avec leurs préoccupations. Ils ont amené dans le monde de la nuit, de l'animal, puisque c'est ce qu'on retrouve toujours dans ces contes d'enfants, et ils ont apporté leurs inspirations à eux, soit eux, des films qu'ils ont vus, qui leur ont parlé sur l'enfance et tout ça. Virginia Woolf est ressurgie de nouveau parce qu'ils vont souvent la chercher.
Mais les films sur l'enfance, par exemple, qu'est-ce que ça serait? Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, ou des choses Cria Cuervos?
Non, c'est La Nuit du Chasseur. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont appris la petite chanson qu'on retrouve comme thème de film. Et voilà, ça se passe aussi dans la nuit. Il y a un prédateur, il y a des enfants qui sont perdus, enfin qui ont perdu leur mère, etc. Et on crée une ambiance, quoi. Quand on entre dans la salle, le spectateur sera mis directement dans une ambiance de forêt, de noir, de nuit.
C'est entre le chaperon rouge et le petit pousset, alors.
Ouais, il n'y a pas du tout de personnages. Il y a ces jeunes qui sont là en pyjama, leur propre pyjama, et en train d'être entre le sommeil et la réalité, et tout à coup sont dans l'écoute des sons, ils sont entre eux, on ne sait pas s'ils dorment ou pas, et puis tout à coup, petit à petit, ça va vers la danse. Et c'est leurs solos qu'ils avaient au départ qui ont été de nouveau cassés, recassés par Pascal Ipuska. Et puis voilà, quoi, à la fin, tout le monde entre en danse.
Alors, deux dernières petites choses très brièvement, puisque le solo est aussi à l'honneur et on en est très heureux. Avec Je danse comme je danse, deux et avec Aurore Soumy, œil extérieur Caroline de Cornière. Quelques mots peut-être sur, d'abord, une interprète qui vous a accompagné depuis fort longtemps, je crois, que vous appréciez beaucoup, à l'égal des autres, mais il y a quand même des gens avec lesquels le compagnonnage est plus capillaire, je dirais. Qu'est-ce qu'il en est justement? Quelques mots peut-être sur ce solo et ce travail, Caroline de Cornière étant donc l'assistante et la compagne à la ville de Guillaume Botello.
Alors, Aurore Soumy, donc elle a, je crois que ça fait... Bon, elle fait de la danse avec moi depuis qu'elle a l'âge de 4 ans et maintenant elle en a 19. Donc c'est vrai que c'est touchant tout à coup. Elle a fait de voir une jeune prendre son autonomie. Et donc, lorsqu'elle a terminé, on s'est entendu, c'est la règle, à 18 ans, on quitte Virevolte parce qu'on trouve que c'est trop difficile d'avoir les jeunes qui arrivent et tout ça. Et puis, franchement, quand on a fait tout le parcours, on a envie d'aller plus loin et pas de recommencer peut-être encore une autre création et où on a la mission aussi d'accueillir les jeunes et de s'en occuper, de marrainer les jeunes. Là, c'est rendu à 19 ans, on a envie de trouver sa propre signature, ses propres préoccupations, comment se situer par rapport à la danse. Donc, Aurore est donc dans Extension Virevolte, et ça, c'est la mission d'Extension Virevolte, a proposé de faire une espèce de bilan, parce qu'elle n'est pas sûre si elle veut continuer professionnellement ou pas dans la danse, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, de Sarah Delava, qui, elle, a fait un choix, ou de Élodie Aubonnet, qui, elle, a fait un choix. Là, Aurore, elle est entre deux. Elle a décidé de faire un bilan, de dire, voilà, je danse depuis que j'ai l'âge de 4 ans, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je danse comme je danse là, maintenant? Et le mieux pour elle, c'était de dire, ben, aujourd'hui, je vais danser, comme je danse maintenant. C'est ça, mon bilan. Mon bilan, il est là. On n'a qu'à le regarder, c'est ça. Et voilà, donc elle a écrit un texte sur ça, un très 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 beau texte, qui est sa base sonore. Et puis, Caroline l'a accompagnée, comme elle dit, pour elle c'était du gâteau, parce qu'elle n'avait pas à imaginer ou à créer, elle avait juste à accompagner quelqu'un qui faisait ses premiers pas, avec beaucoup d'expérience, puisque Virevolte lui en a apporté beaucoup. Mais là, les faire tout seul, c'est un grand plongeon, hein.
Vous entendez tout de même une petite chose, c'est qu'on a l'impression qu'il y a véritablement une sorte d'autobiographie dansée, c'est-à-dire que le rapport entre parcours personnel et parcours en danse est extrêmement étroit, et vous jouez d'ailleurs dans votre transmission, dans votre enseignement, sur des résonances de l'un à l'autre.
Oui, parce que pour moi, je crois qu'en tant qu'être humain, on doit toujours se positionner soi-même. Alors, on doit se positionner en tant que au niveau social, au niveau politique, au niveau personnel, au niveau émotif et tout ça, professionnel. Donc, je pense que plus tôt les jeunes apprennent ça au travers d'une passion qu'ils aiment, c'est-à-dire la danse, en ce qui nous concerne, après, ils sont capables peut-être mieux, enfin je l'espère, de gérer tous ces positionnements qu'on a à faire dans sa vie pour être vraiment celui qu'on veut être et faire profiter la société quelque part et d'être dans le flux. Un flux de la société.
Quoi. Alors, ce flux s'achève, si j'ose dire, et recommence avec Sarah Delalva et sa pièce qu'elle interprète, Esquisse. Quelques impressions sur cette esquisse, justement, Manon Hott.
Alors ça, c'est ma cerise sur le gâteau. Si on part de la black box au sous-sol avec ses 15 tableaux et puis qu'on suit les sons sonores de Marie qui sont installés dans le puits du centre du Grütli et qu'on monte les escaliers et qu'on arrive dans cette exposition au deuxième et qu'on passe par Virevolte puis ensuite Extension Virevolte avec Aurore Soumy et on arrive après Sarah qui elle est complètement autonome et à qui j'ai donné carte blanche et que elle est à Montréal maintenant, elle fait ses études à Montréal. Et on a beaucoup correspondu par mail, j'ai beaucoup donné mes impressions, mes retours par mail sur ce questionnement, sur ce qu'elle allait présenter et tout ça, qu'elle a présenté en premier à Montréal et qu'elle apporte ici, qu'elle adapte pour le White Box. J'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai découvert la pièce. Là,
Quelques mots, donc, qu'est-ce qu'elle explore dans cette pièce?
Alors, ce qui l'a intéressée, ça a été le lien entre son mouvement dansé et le mouvement qu'elle a lorsqu'elle dessine. Donc, il y a un lien entre le dessin et le mouvement dansé. Elle aime beaucoup esquisser les choses au niveau du dessin, au crayon gris, et là, elle a fait ce travail. Et l'autre partie ou l'autre niveau de sa recherche a été sur les textures de peau. Et là, on revient au BMC, hein, c'est étonnant, elle en a beaucoup profité de ça. Et elle a fait des photos sur des gros plans, sur différentes textures, qu'ils soient de peau, d'écorce, de sol, de vêtements. Et on se rend compte qu'elle élargit un très grand format, toutes ces textures se ressemblent un peu. Et elle a une danse hypersensorielle, hyper intégrée. C'est très poétique, c'est très esthétique. Elle a 21 ans. Ouais, elle est bien partie.
Alors justement, une dernière chose pour le rappeler, c'est du tableau 1 au tableau 15, ça concerne en fait des élèves entre guillemets de quel âge à quel âge, juste pour brasser la palette.
De 4 ans à 20 ans.
Manouette, merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était très complet.